Dans Matthieu chapitre 10, on commence à considérer, on va prendre le temps que ça prend parce que je pense que c'est un passage très important. On va vous expliquer pourquoi dans le message, mais je veux qu'on prenne le temps de considérer les versets 5 à 23 parce que c'est la mission apostolique. Et bon, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait pas d'apôtre ici dans l'église, là. Kevin, t'es pas un apôtre, toi? Non. OK. Dave non plus, OK. Mais, en fait, d'une façon, oui. Parce que apôtre, ça veut dire envoyé. Dans le sens restreint du terme biblique, il n'y a pas d'apôtre. Et puis d'apôtre, c'est fini, là. Mais on est tous des envoyés du Seigneur, hein? On est envoyés dans la moisson du Seigneur. Donc, dans le sens plus large du terme, OK? On est des envoyés du Seigneur, donc, et on est en mission, parce que la grande commission, c'est toujours, elle n'est pas passée date, elle est toujours bonne. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de principes, de choses que je veux qu'on considère, qui sont vraiment toutes là dans le texte, qui sont données par Christ lui-même, alors qu'il les envoyait, et on va prendre le temps de considérer ça. Je veux qu'on lise l'ensemble du passage pour se baigner un peu de ces vérités-là, puis ensuite, on va commencer à le considérer ensemble. Donc, Matthieu 10, on commence au verset 5. Donc, on a vu les apôtres, on les a tous nommés, on les a tous vus ensemble. Maintenant, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et dites de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Wow, il y a du stock. On va considérer ça, comme je disais, on va prendre le temps. Et on commence ce soir avec juste les quelques premiers versets. J'ai une couple de remarques d'introduction importantes. Je vous dis que c'est un texte qui est bien important. Voici pourquoi. Je crois que ce texte est à la base de toute l'œuvre ecclésiastique et missionnaire de l'ère de l'Église. Puis là, certains vont dire, ouais, mais c'est pas juste pour les Juifs. Et, oui, il y a des spécificités juives, mais c'est le fondement sur lequel tout le livre des Actes, tout a reposé là-dessus. Okay? Puis il y a des principes qui sont là, qui sont encore très valides de nos jours. Il y a des commandements que Jésus donne. Bon, tu sais, l'affaire de secouer la poussière des pieds, bon, on fait pas ça, mais il y a des choses que ça veut dire là-dedans, puis bon, en tout cas, vous allez voir, on va regarder tout ça ensemble. Évidemment, c'est le fondement de l'œuvre apostolique, OK, parce que c'était les apôtres qui étaient partis comme ça, mais ils sont allés dans le monde, OK, après avoir prêché aux villes d'Israël, tout ça, quand Christ est allé au ciel, ils sont allés, puis là, ils ont pas arrêté leur mission à Israël, puis les mêmes choses qu'ils faisaient, ils ont continué de les faire. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est le fondement de l'œuvre du corps de Christ. Mais aussi, c'est La révélation du cœur, de la sagesse, de l'amour de Dieu envers le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'assure que ses enfants, ses envoyés ou apôtres, vont atteindre ceux qui sont dans les ténèbres. Et vraiment, c'est ça ici. Il envoie avec des instructions pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Ils n'envoient pas comme, ah, ben, allez-y, puis parlez de moi. Puis, non, non. Il est vraiment, il les instruit pour qu'ils puissent atteindre avec l'évangile du royaume ceux qui sont dans le royaume de Satan. Avec le message de la vraie lumière dans un monde de ténèbres. Et donc, c'est ce qu'on voit, puis ce qu'on comprend aussi quand Jésus, au début, ça dit, il les envoya. Et leur a donné les instructions suivantes, au verset 5. « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Donc, autrement dit, ils étaient sous les ordres de leur chef et leur maître. Ils ne les ont pas envoyés n'importe comment, ils les ont mandatés. Il dit « Moi, c'est moi l'autorité qui vous envoie, puis là, vous allez comme ça. » OK, on va voir ça en détail, ce que ça veut dire, là, mais... ces gens-là, ici, les apôtres, tout comme nous, ça appartenait pas à eux-mêmes. Il avait été racheté à un grand prix. Il était littéralement, dans nos Bibles, ça dit serviteur. Mais littéralement, ça veut dire doulos, là, c'est esclave, que ça veut dire. Vous écoutez, il y a un bon message là-dessus qu'on a écouté dernièrement. Je vous en parlerai plus tard si vous voulez savoir, vous viendrez me voir. Mais des esclaves, hein? On était esclaves du péché. Christ nous a affranchis, mais on est devenus esclaves de Christ. Mais ça, c'est la vraie liberté. Ça semble un peu contradictoire, mais quand on est un esclave de Christ, on ne veut plus avoir aucun autre maître parce que c'est les bons bergers. C'est celui qui donne la vraie liberté. Et si on continue un peu à considérer en introduction toute cette idée de la mission apostolique, c'est pas leur mission, c'est celle de Dieu. C'est pas eux qui sont arrivés avec cette idée-là, c'est vraiment, ils étaient les mandataires, ceux qui étaient envoyés pour accomplir sa mission à lui. Et rien n'a changé, savez-vous, en ce qui nous concerne. Car nous aussi, on a le même mandat d'aller. OK, il y a des spécificités qui sont peut-être un peu différentes, mais on a le même mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher l'Évangile. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on le considère. Pour ça qu'on va prendre même les quelques prochains messages pour ça. Je ne sais pas combien, là, en tout cas. Celui d'aujourd'hui ne va pas couvrir tout le texte, je vous en assure, là. C'est important, mais aussi c'est actuel. Vous allez voir, il y a des choses vraiment qui sont très bonnes pour des temps dans lesquels nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les mêmes sortes de temps. C'était pas a bed of roses pour eux autres. Là. C'était pas comme, oh, la vie est belle. Ils s'en allaient dans un terrain hostile. Jésus l'a dit, hein, comme des brebis parmi des loups. Mais c'est pareil pour nous. Hein? Donc, c'est bien d'actualité là-dessus, plus que jamais pour l'Église de Jésus-Christ. Et je vais amener un point là-dessus. On doit se rappeler de la centralité de Jésus-Christ dans l'œuvre missionnaire. Parce que ce qui fait l'efficacité de l'œuvre missionnaire, c'est de garder Christ au centre. On ne se prêche pas nous-mêmes. Paul dit, hein, puis quand nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et donc, ce qui nous pousse dans la grande mission, c'est celui dont le nom signifie sauver son peuple de ses péchés. Pourquoi on va? Parce qu'on va proclamer celui qui sauve. C'est lui le centre d'attention, c'est lui la raison de notre obéissance à la grande commission, c'est lui l'objet de l'adoration, l'objet dans le sens, pas que Jésus est un objet, mais c'est lui le centre de l'adoration de l'Église. Alors, tout naturellement, toute la mission est centrée sur lui. Le message, tout, c'est par rapport à lui. OK? Et c'est ça qui est mis de l'avant pour nous comme une Église. On doit proclamer ça et exécuter cette grande mission qui a commencé avec les apôtres et qui va terminer lorsque l'enlèvement va arriver pour nous, l'Église, mais même, j'avoue, ça va continuer parce que les Juifs vont prendre la relève. Parce qu'on sait que pendant le temps de la tribulation, l'Évangile va encore courir. Jésus l'a fait connaître clairement, puis bon, en tout cas, il y a toutes sortes de prophéties qu'on pourrait regarder à ça, mais dans le temps de la tribulation, la grâce de Dieu ne sera pas finie. Ça va être un temps de jugement, mais encore Dieu, dans sa bonté, va encore étendre sa grâce pour que les gens puissent être sauvés. Wow! Dire, c'est l'amour de Dieu, c'est incroyable. Mais pour nous, ça a commencé là, puis ça va finir. Faites-vous en pas, on va savoir quand ça va être fini. Puis on n'aura plus besoin d'essayer, on va être au ciel, on n'aura plus besoin de prêcher l'évangile au ciel. OK? Mais pour ce qui nous concerne, c'est pas encore fini. Donc, on va regarder 9 éléments, puis quand je dis 9, on va pas les regarder les 9 à soir, mais 9 éléments de la mission apostolique. Le premier, dans les versets 5 et 6, on les a lus, c'est le mandat de la mission. Vous allez voir, c'est facile à retenir si vous prenez des notes, c'est tout des M. Le mandat de la mission. Au verset 6, on va relire les deux, ça va nous aider à se les rappeler, là. Tels sont les 12, hein, puis on les a vus déjà dans le dernier message, que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez. Vous savez que ce mot-là est très important. Jésus, à 5 reprises, à la fin des 4 évangiles, puis au début du livre des Actes, mais c'est tout dans la même période de juste... avant son départ, avant son ascension, ou des fois, c'était... en tout cas, dépendamment, mais... À la fin de tous les évangiles, il donne la grande commission, sous différentes formes, puis l'idée, c'est « Allez! » OK? « Voici, je vous envoie. » Ça, c'est dans Jean, puis bon. Et... Non seulement nous sommes appelés à aller, OK? Puis je pense que si Jésus a répété ça... à 5 reprises avant son départ, après l'avoir dit ici plus tôt dans son ministère, ça veut dire, je pense que c'est important. Okay? S'il l'a répété, c'est parce qu'il vraiment, c'était avec ça qu'il voulait, c'est la dernière impression qu'il voulait qu'on aille, de ce qu'il voulait qu'on aille, d'aller. Et ça, ça nous est donné par le maître, c'est un ordre, c'est pas une option. Mais ça implique aussi que, vu que c'est le maître qui nous donne, c'est la grande commission, c'est pas la grande suggestion. Vous savez, on n'a pas le choix pour ça. C'est notre mission. Puis, qu'on aime ça ou non, qu'on ait peur ou non, que ça nous tente ou non, on n'a pas le choix. C'est un ordre. Mais aussi le comment. Ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'instructions bien précises. Puis, dans la parole, on a beaucoup d'instructions. Je suis toujours un peu flabbergasté à voir des pasteurs, des missionnaires qui s'assoient ensemble autour d'une table de café puis qui essayent de découvrir le comment des missions. Pourquoi tu essaies de le découvrir? C'est déjà tout écrit dans la parole. Puis comment d'être culturally relevant, d'être culturellement relevant, d'être culturellement approprié. Non, Jésus n'a jamais demandé qu'on soit culturellement approprié. En fait, Jésus était très culturellement choquant. Puis son église a toujours été culturellement choquant et culturellement... ils ont changé la culture. Fait que toute l'idée que les chrétiens, c'est comment je peux être... conforme à la culture pour essayer de m'adapter pour prêcher l'évangile, ça, comme on dit, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Parce que c'est un message qui n'est pas de ce monde de toute façon, qui n'est pas selon la sagesse de ce monde, puis les grands de ce monde ne l'ont pas connu, sinon ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je veux dire, on n'a pas à se poser cette question-là. L'idée, c'est qu'il faut juste y aller. Et c'est un mandat. OK? Donc, là, je réfère, quand je parle de ça, et je sais, j'ai écouté le message de pasteur Campbell, c'est une bénédiction, c'est un bon message, mais l'idée du pragmatisme, hein, vous avez appris ça, c'est quoi le pragmatisme, hein, qu'est-ce qui marche, tout ça, pas besoin de ça. Dieu nous a déjà montré ce que lui trouve qui marche, c'est prêcher son évangile fidèlement. Ça marche pour lui, parce qu'on peut faire des choses pragmatiques qui marchent pour nous. D'ailleurs, dans une des lettres, ça, c'est mon dossier COVID, il est de plus en plus épais. Il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part, j'ai trouvé ça bon, je vous le lis, parce que j'ai trouvé, c'est Guetta Brassard, ça c'est, je vous l'ai fait suivre, c'est Gabriel qui m'avait envoyé ça, son frère avait envoyé, il m'a envoyé deux affaires de même. Je pense qu'une partie du, là il parle, attends, je vais commencer un petit peu, tu sais parce qu'il parle de toute l'idée, pourquoi on est traité comme des bars, puis de l'alcool, là, puis bon, mais il dit, voici, je pense qu'une partie du problème vient du modèle attractionnel, seeker-sensitive, ça c'est la traduction française, du modèle attractionnel de nos églises évangéliques modernes qui ont tenté pendant des années d'attirer la foule plutôt que faire des disciples. Bang! Exactement. La foule verra toujours l'église comme optionnelle. Le disciple de Jésus verra toujours l'église comme essentielle. Wow! Et c'est ce que les disciples de Jésus devraient communiquer à notre culture. Puis là, j'ai mis les exemples qu'il donne. Est-ce que le cinéma ira au chevet de vos parents malades? Est-ce que le casino... Est-ce le casino qui t'aidera à gérer la crise dans ta maison? Est-ce que le bar t'offrira un panier de nourriture quand tu perdras ton travail? Est-ce que la salle de spectacle priera pour toi dans l'épreuve? Est-ce que le gouvernement qui organisera ton mariage ou tes funérailles? Est-ce la société des alcools ou du cannabis qui redonnera espoir à ton ami suicidaire? Non, je pense qu'ils vont plus mettre un clou de plus dans le cercueil. C'est bon, hein? C'est ça que je dis. On n'a pas besoin de se casser la tête. Non, Dieu nous a déjà tout mis clairement. Pas besoin de se casser le bicycle. Pour prendre une citation populaire dans notre église. On n'a pas besoin de casser le bicycle comme s'il fallait trouver quelque chose, quoi faire, comment le faire. Tout est déjà donné clairement. Il faut juste suivre les instructions. Et on les a déjà données. Et si on a de l'autorité, c'est de l'autorité déléguée. On a de l'autorité pour exécuter l'œuvre, n'est-ce pas? Il dit aller, puis bon. Mais c'est de l'autorité déléguée. C'est pas nous qui est au contrôle. On est sous le contrôle de Dieu. Donc, Christ nous a donné le mandat pour l'exécuter selon ce que lui veut. Puis dans cette sphère-là, là, on le fait comme il nous dit. On n'a pas le luxe d'inventer nos propres idées ou nos priorités. On n'est pas des mandataires indépendants qui peuvent concevoir leur propre message, leur propre méthode, mais nous sommes l'autorité de notre chef et maître, le berger de notre âme et notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire le chef, celui qui dirige. C'est ça, je pense que ça, c'est juste dans ça, il y a un reproche à la philosophie pragmatique qui veut, à tout prix, rendre le message, la méthode acceptable. Mais pour qui? Pour les hommes. Ça veut quoi? C'est quoi? C'est la traduction moderne, la crainte des hommes. Si on craint Dieu, on va faire comme lui il dit, puis on va lui faire confiance pour les résultats. Puis effectivement, on ne restait pas juste d'attirer des foules. Puis, savez-vous, Jésus n'a pas dit « faites venir », il a dit « allez ». On veut atteindre les gens avec l'Évangile, mais l'Église, les gens, on veut qu'ils viennent à l'Église pour être formés comme disciples. Okay? Puis on va, puis on atteint les gens, puis là, ils viennent à l'Église, puis on les forme comme disciples. Donc, l'Église n'est pas une salle de spectacle ou quelque chose pour divertir les gens. Mais c'est pour être formé comme disciple de Christ. D'ailleurs, savez-vous qu'à l'époque, déjà, Spurgeon, en tout cas, il y a un monsieur qui faisait des cirques, un businessman, puis il voyait bien que Spurgeon attirait des foules, puis essayait de faire des business avec lui, puis il s'est fait pas mal virer de bord. Si vous connaissez Spurgeon, il y avait, comme on dit, du wit, hein? Il y avait le tour de répondre aux gens, puis il avait fait un sermon là-dessus, puis ça s'appelait, je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, là, mais Entertaining Goats or Feeding the Sheep. T'sais, est-ce qu'on veut divertir les boucs ou nourrir les brebis? La réponse est claire, hein? Donc, non, sans équivoque, M. Spurgeon, ça ne passait pas. Puis, je pense qu'en ce moment, ce qui est important pour nous, dans les circonstances, les événements actuels, écoutez bien, il y a quelque chose pour en ce moment. Savez-vous que le pragmatisme, c'est une philosophie qui est tenace, qui ne s'en va pas facilement. Parce que même dans des temps difficiles comme les nôtres, okay, ce qui ressort, c'est qu'il faut s'adapter. Il faut adapter notre message et notre méthode. Le message, on va le mettre en ligne. La méthode, on va changer. Pourquoi? Pour s'adapter aux circonstances, aux événements actuels. Où on trouve ça dans les Écritures? Où le peuple de Dieu, fidèle à Dieu, à sa parole dans l'histoire, a interrompu la propagation du message, la mission, à cause des circonstances. C'est quand c'est arrivé, dites-moi-le. Savez-vous que contre vents et marées, le peuple de Dieu a persévéré, malgré les plus féroces oppositions, là où est-ce que les Bibles étaient brûlées, ou là où est-ce que les chrétiens étaient emprisonnés, où est-ce que... Ils ont continué pareil. C'est l'inverse qu'on voit. Les enfants de Dieu ont persévéré à accomplir la mission à laquelle ils sont appelés malgré tout. Puis là, nous, on est à la fin des temps, puis on pense qu'en restant assis chez nous, puis en faisant... OK, Ma femme m'a dit ça une couple de fois cette semaine, puis c'est tellement vrai, là. Si on n'avait pas Internet, si on n'avait pas Zoom, pensez-vous que ça serait différent? Là, c'est parce qu'on a une option. On a lu un livre, les deux, puis ça s'appelle, vous le conseille fortement, c'est par Major Ian Thomas. C'est dans lequel, Christina? En tout cas, il a dit, il y a toujours une alternative raisonnable à la foi. Et vous, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Au lieu que les chrétiens soient face à la dure réalité, puis qu'on dit, ben là, on peut pas chacun être dans notre coin, il faut qu'on se rassemble. Non, il y a l'option électronique. Il y a toujours une option raisonnable à la foi. Vous savez quoi? Je pense que c'est un piège. Je pense que ça... Si on était 100 ans et qu'il n'y avait pas ça, là, on penserait pas à ça. Mais là, à cause de dans le monde dans lequel on est, et savez-vous quoi? Je pense que ça n'aide pas la foi, ça n'aide pas l'œuvre de Christ. Pensez à ça. Gracieuseté de ma femme. Je vous le partage. Puis là, elle n'aimera pas ça que je l'aille nommer de même. Elle n'aime pas ça être mis sur le spot de même, mais c'est pas grave. Si vous voyez que j'ai un œil au beurre noir, mercredi, de savoir pourquoi. OK? Non, c'est ça. L'Église de Jésus-Christ a toujours répondu aux dangers, aux circonstances. Puis nous autres, en passant, il y a des dangers, puis il y en a qui sont réels, d'autres qui sont imaginaires, mais il y en a qui sont vrais. Puis il y a des menaces aussi. On a vu ça avec le livre des Actes, hein, il était menacé. C'est vrai que c'est propre du lion rugissant de menacer. Il rugit pour faire peur. Un lion, là, ça rugit, ça fait peur. Pensez qu'une des tactiques préférées de Satan, c'est de faire peur, pour essayer de neutraliser le peuple de Dieu. Mais comment le peuple de Dieu dans l'histoire, puis là on peut juste regarder dans le livre des Actes au chapitre 4, comment ont répondu à ça, à ces dangers, à ces menaces, à ces circonstances, à la persécution? Ils n'ont pas répondu au danger en tant que tel, ils ont répondu envers Dieu. Ils ont dit, Dieu, c'est toi qui envoies ça. Vois leurs menaces. Tu vois ce qui est en train d'arriver. Ah, ce qui arrive, c'est selon les Écritures. On voit que les chefs de la terre des nations se sont ligués contre l'Éternel et contre ton oint. OK, Dieu, on remet ça en tes mains maintenant. Donne-nous le courage de répondre par la foi. Ça, c'est la réponse biblique. Ça, c'est notre mandat. Le mandat de la mission n'est pas circonstanciel. Il n'est pas négociable. C'est le chef de l'Église qui l'a donné. Nous sommes son corps. On doit obéir. Il n'y a pas de fine print. Comme, ah, ben là, dans telle circonstance, la grande commission est pas valide. Non. De tout temps, de toute époque, toujours, l'Église de Jésus-Christ est appelée à rentrer dans le royaume des ténèbres avec l'Évangile du royaume éternel, l'Évangile de la lumière. Et je pense que c'est ça le secret. Quand on regarde, je vous dis, lisez le livre des Actes au complet, mais chapitre 4, chapitre 5, c'est vraiment précieux. Leur secret, ils reconnaissaient la souveraineté de Dieu qui avait envoyé ces choses. Ils disent, dans ce passage-là, ces choses que ta main avait arrêtées d'avance. Ils voient que ce qui arrivait avec Ponce Pilate, puis que Christ était sur la... Dieu, tu avais déjà tout prévu ça. Puis nous, on est parti de ton plan. On a la suite de ça, tu es au contrôle. Maintenant, donne-nous juste la grâce, le courage de faire face à la musique. Ils n'ont pas demandé d'enlever les circonstances. Ça fait que Dieu était l'auteur des circonstances. Ils ont demandé la grâce de passer à travers ces circonstances. Wow! C'est quelque chose pareil, hein? C'est notre mandat. Ils ont répondu aux circonstances en lui faisant confiance. C'est ça la réponse de la foi. C'est pas la réponse de la part des raisonnements, du pragmatisme, la réponse de la foi. Puis juste une petite note sur le verset 6, elle dit « Allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. » Tu sais, rentrez pas dans les allez pas vers les païens, là, puis... On sait que Dieu se soucie, aime tout le monde et veut que tout le monde soit sauvé. Mais juste, il faut comprendre, vous connaissez, je l'ai cité ce matin, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ici, c'est une question d'ordre. La Grande Commission a commencé... D'abord, le royaume était offert aux Juifs parce que c'était eux qui étaient les premiers mandataires de répandre cette nouvelle. Donc, ça a toujours été pour tout le monde, mais ceux qui devaient être les instruments premiers pour le propager, c'était les Juifs. C'est pour ça qu'il leur dit d'aller vers eux. C'est pas parce qu'ils ne suciaient pas des païens et des samaritains. On voit Jésus qui a été vers les païens et les samaritains lui-même dans son ministère. Hein, la femme samaritaine, puis la décapole. La décapole, c'était pas des juifs, ça. Okay? Ça veut dire, décapole, ça veut dire les 10 villes, c'est un endroit païen. Juste, le Christ est allé là, puis il a fait des miracles, puis il a prêché l'évangile. Là. C'est pas qu'il ne se souciait pas d'eux, c'est que c'était selon le principe. Dieu est un Dieu d'ordre. Il avait confié, OK, son message, son mandat d'abord à Israël. Ils ont échoué ce mandat. Dieu, maintenant, s'est tourné vers nous, les païens. Okay? C'est juste c'est dispensationaliste, si vous voulez. Là, okay? Donc, c'est pas que oh, Dieu ne soucie pas des païens. Non, pas du tout. C'était juste pour l'ordre des choses. Ça nous amène au deuxième élément de la grande mission. Non seulement le mandat, mais le message de la mission. Regardez ce que ça dit au verset 7. Allez. On l'a déjà considéré, ça, allez, OK. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Hey, c'est quoi, c'est qui se met comme avec Jonas? C'est pas très compliqué comme message, hein? C'est quoi le message de Jonas? 40 jours, puis Ninive est détruite. Puis, c'était pas plus compliqué que ça. Mais si on garderait ça simple, là, pour nous, là, le royaume des cieux est proche. C'est ça notre message, allez et dites. C'est ça qu'il dit, hein, verset 7. Allez, prêchez et dites. C'est-à-dire que on a là le message spécifique ou essentiel de notre mission. Savez-vous, c'est ce que Jean-Baptiste a prêché? Puis quand okay, vous irez voir, là, on n'est pas obligé d'aller voir, mais dans Matthieu 3, 2, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, dans chapitre 4, verset 17, après la tentation dans le désert, il s'est mis à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Puis Jésus, ici, il dit à ses disciples, je pense qu'il y a de la suite des idées, prêchez que le royaume des cieux est proche. On n'est pas vraiment habitué à penser comme ça quand on pense à prêcher l'Évangile. On pense pas nécessairement en termes de royaume de Dieu. Mais quand on y pense, puis qu'on comprend la pensée puis le but de l'Évangile de Matthieu, qui s'adressait à Israël, le but c'était de leur annoncer ce qui avait été annoncé par tous les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes annonçaient? Le royaume messianique, le Messie, qui est le roi d'Israël, qui va avoir un royaume. Tu sais, un roi, pas de royaume, ça marche pas. Hein? Fait que quand on parle du Messie, dans tout l'Ancien Testament, c'est le roi qui devait venir, puis il y a un royaume, ce roi-là. OK? Et tout ça, on sait, c'est tout accompli en Jésus-Christ. On en a parlé un peu ce matin, on va même en parler plus dans le mois d'octobre, toute la notion de royaume. Donc, Christ, avec son œuvre expiatoire, sa rédemption, est venu apporter le royaume. Puis il y a trois aspects à ça. Juste, vous amenez ça, là, juste en petite parenthèse, là. Quand on prêche le royaume, OK, on prêche le message essentiel de la Bible, c'est-à-dire on est ici-bas dans un royaume déchu, un royaume voué à l'échec, mais Christ est venu en tant que roi, puis il est venu amener la bonne nouvelle de son royaume, qu'on peut être restauré, ce qu'on a perdu en Éden, on peut le retrouver. C'est ça toute l'idée du royaume. Avec le péché, on est devenu sous la domination de Satan, son royaume. Christ est venu comme le vrai roi, celui qui devait venir pour amener son royaume. Comprenez-vous? C'est ça qu'on prêche. Puis on peut amener ça de même en passant. Hein, ça va pas bien ici sur Terre. Puis en passant, on n'est pas des témoins de Jéhovah quand on fait ça. Là. Okay? Les autres, ils ont amené ça, bon, en tout cas, ils sont hérétiques, mais il y a quand même une notion là-dedans. Souvent, les gens sectaires vont prendre une vérité, ils l'amènent trop loin, mais n'est-ce pas une vérité pareille? Mais juste pour vous amener juste une pensée là-dessus, le royaume de Dieu est démontré dans la conversion d'une personne, lorsque par la foi, la confiance en Christ, cette personne rentre dans le royaume. N'est-ce pas ça? Hein? C'est ça que ça dit dans le livre des Actes, que lorsque les païens comme ça, ils parlaient dans Actes 26, 18, qu'ils allaient passer des ténèbres à la lumière du royaume de Satan à celui de Dieu. OK? Donc ça, c'est la conversion quand on rentre dans le royaume de Dieu. La consécration, une autre façon que le royaume de Dieu est démontré, c'est par la consécration, lorsque par la foi, là aussi, la confiance en Jésus-Christ, on vit dans ce royaume, on vit selon les règles de ce royaume. N'est-ce pas ça être un enfant de Dieu? Vivre selon le nouveau royaume dans lequel on est, hein? On n'est pas des citoyens d'ici-bas, on est des citoyens des cieux. Qu'est-ce qui était mon message ce matin, si c'était pas de vivre à la lumière du fait qu'on n'est plus de ce monde? On est dans ce monde comme n'étant pas du monde. Et évidemment, et ça c'est pour après, Mais le royaume de Dieu va même être démontré en consommation, c'est-à-dire qu'un jour, lors de la consommation de toutes choses, Christ va régner sur terre. Il va avoir le royaume millénaire, puis ça va s'étendre pour l'éternité. Et encore là, ce n'est pas un règne qui est de ce monde, qui émane de ce monde, ça vient de Dieu. OK? Dieu nous a donné un message par rapport à un royaume qui n'est pas de ce monde, donc qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas dans le divertissement, qui n'est pas dans l'amélioration personnelle, qui n'est pas dans la justice sociale. Toutes des pièges dans lesquels l'Église peut tomber d'une façon ou d'une autre. Non, notre message retentissant, c'est qu'il y a un roi et on est appelé à se soumettre à son règne. C'est ça essentiellement l'Évangile. C'est ça qu'on prêche, n'est-ce pas? Parce que pensez-y. Tu sais, un verset qu'on prend quand on prêche à cœur, on va prêcher le péché. OK? Péché, justice, jugement. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, on ne peut pas sauver nous-mêmes, on est séparés de Dieu. La justice, là, on prêche la justice de Christ. Il y en a un seul qui est juste, il y en a un seul qui a accompli la justice de Dieu, il y en a un seul qui peut nous sauver. OK? Puis, il faut se confier en lui parce que sinon, le jugement vient, on va tous faire face à Dieu un jour, il faut qu'on soit prêt. Puis la façon d'être prêt, c'est en recevant cette justice parfaite de Christ. OK? Et quand on prêche ça, bon, on va terminer. Vous connaissez Romains 19? C'est quoi le chapitre le verset Romains 19? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Là, c'est avant, j'aime comment elle a traduit. Ça dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur. OK? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, ça nous montre que le salut, c'est essentiellement ça. Confesser que Christ est mon Seigneur. Puis là, il y en a qui ont des controverses là-dessus. Ah, mais ce Lordship Salvation, écoutez bien, là. Jésus n'était pas bordré avec ça, mais quand il dit « suivez-moi », c'était pas comme juste répéter une prière pour continuer votre vie comme si de rien n'était. Non, c'est une reconnaissance de qui on est face à Dieu, puis une soumission à lui en disant « je te reconnais comme mon sauveur ». C'est pas parfait, ça veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, toute ta vie va être parfaite, puis on rentre dans un système légaliste, mais la rébellion arrête. Recevoir le Seigneur, c'est se soumettre à sa seigneurie. OK? Et vraiment ici l'idée, ça doit nous amener à avoir une vie, une pensée qui est centrée sur l'évangile du royaume. Parce que c'est ça notre mission, c'est notre message, c'est notre modus operandi. Je pense que c'est Éric Tremblay qui aime essayer de dire ça. Si vous connaissez Éric, il dit souvent ça, le modus operandi. Ah, t'en rappelles-tu? Il disait ça souvent, hein? Non, t'en rappelles pas? Moi, je m'en rappelle. Il est primordial que nous ayons l'hardiesse pour proclamer cet évangile, spécialement dans notre époque postmoderne de relativisme. Et là, je vous explique, OK? On parle du message. On parle du mandat, là, on parle du message. Vous savez que notre message n'est pas socialement acceptable, spécialement en ce moment. Il disait quelque chose où est-ce que Tim Keller, ceux qui le connaissent, là, que c'est juste une histoire personnelle qu'il partageait, il dit, je partageais l'évangile avec quelqu'un, puis là, il m'arrête. Il dit, hey, t'as peu, là? T'es-tu en train de me convertir, puis que je vois les choses spirituelles à ta façon? Il dit, oui. Ça, en passant, ça, c'est une offense suprême dans la Bible postmoderne. Je peux pas faire ça. Mais il était juste honnête. Comment tu peux oser essayer de changer mes vues spirituelles? Il dit, écoute, là, mon ami. Il dit, écoute ce qui est en train d'arriver. Moi, je suis en train d'être honnête en disant, oui, j'aimerais ça que tu te convertisses puis que tu te plies à ce que moi, je te présente comme être la vérité, la réalité. Puis je suis gentil, puis je sais pas. Mais regarde comment tu réagis. Toi qui penses que toi, tu as raison, toi avec ton évangile, tu veux me l'imposer, puis j'ai pas le droit de te parler. C'est qui est intolérant? C'est qui est... Puis mes amis, n'est-ce pas vrai? On est présentés comme des bigotes, des intolérants, puis tout ça, alors que c'est l'inverse, c'est eux qui nous prêchent les évangiles de la tolérance, de toute la confusion qu'on a. Puis nous, avec... puis il faut pas qu'on perde ça de vue. OK? On a un message qu'on amène prêchant la vérité dans l'amour. Les gens vont peut-être pas le recevoir, mais on n'a pas avoir honte de l'évangile. Puis, savez-vous quoi? Les gens peuvent être offensés, mais il faut se rendre compte. il n'y a pas de gens qui ne sont pas des prosélytes. Ah, oh, t'as pas le droit de prolétiser. Savez-vous que dans le ministère de prison, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas faire du prosélytisme. C'est drôle quand ils font ça parce qu'ils font du prosélytisme quand ils disent ça. Parce qu'ils disent, t'as pas le droit de faire ci. C'est quoi, tu es en train de m'imposer? Fait que tu sais, c'est comme à sens unique. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Dans les écoles, ah, on ne peut pas parler de religion. Ah, mais on peut imposer la vision postmoderne, relativiste, puis le cours d'éthique que tu. Ah, ça, c'est correct. C'est leur évangile, comprenez-vous? Fait que des évangiles, il y en a plein, des faux évangiles, puis tout ça. Nous, on a le vrai évangile, puis on peut le proclamer sans excuse, sans gêne, sans honte, mais toujours de la bonne manière, par exemple. Donc, voyez-vous, l'idée de l'ouverture d'esprit, c'est pas d'accepter toutes les idées sans filtre, mais accepter d'être confronté à celles qu'on n'est pas d'accord avec une bonne attitude. Je pense que les chrétiens là-dessus, on peut. Puis souvent, en général, même les conservateurs ont habitué à ça. En général, la gauche, les gens, eux autres, ah, ils veulent pas parler, puis quelqu'un. Puis souvent, ceux qui sont habitués comme nous autres, parce qu'on est habitués qu'on dit quelque chose, les gens ne sont pas d'accord. C'est nous qui sommes plus tolérants, puis. N'est-ce pas? Fait qu'il faut pas qu'on se laisse impressionner par. Parce que c'est l'inverse, ils nous accusent de ce qu'ils font eux-mêmes, ce qui est typique de la nature humaine. Puis si vous suivez la politique, c'est across the board, comme on dit. C'est. Ça traverse le tableau. Oh, mais je sais, je suis pathétique. OK. Troisième élément. Donc, le mandat, le message et maintenant la méthode. Regardez le début du verset 8. Donc là, Jésus leur a donné leur mandat, leur message. Maintenant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Bon, vous savez ce que vous avez à faire cette semaine. OK? Ok, tu ressuscites les morts, tu vas chasser des démons, guéris les. Ok. Non. Ça, c'est la. Mais je l'ai appelé la méthode de la mission. Parce qu'on comprend, ok, évidemment. Ici, c'est des dons de signes qu'on appelle. C'est-à-dire que dans la Bible, pas juste dans le Nouveau Testament, mais dans le but d'authentifier son message et son messager, Dieu a souvent accompagné son message et son messager de signes. Il a fait ça avec Moïse, hein, pour montrer que c'était bien lui qui était envoyé. Il y avait les 10 plaies d'Égypte, ok. C'était des dons de signes, c'était pour authentifier. C'est pas n'importe qui, c'est mon serviteur Moïse, écoute ce qu'il a dit. Le message et le messager étaient authentifiés par les miracles. Même chose avec Élie et Élisée. Puis encore, puis c'était tout le temps dans des temps où est-ce que le jugement allait tomber. Okay? Où est-ce que Dieu, dans sa grâce, dit « Hey, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est mes envoyés, puis you better listen. » C'est tout simplement d'écouter parce que le jugement s'en vient. Regardez, c'est ça avec Moïse, c'est ça avec Élie et Élisée, puis avec Jésus-Christ puis les apôtres pareil, parce que le jugement est tombé en 70 après Jésus-Christ. OK? Jérusalem a été détruite, puis tout ça, par titre, on sait. Donc, c'est un pattern, c'est toujours pareil. On appelle ça des dons de signes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, si on n'a plus ces dons-là, si on n'est plus dans les mêmes circonstances? Simplement, je pense que ça veut simplement vouloir dire que... Vous savez, Jésus n'a jamais... Jésus n'était pas dans l'industrie du spectacle. Il n'a jamais fait ses miracles pour essayer de faire un show comme on voit au Miracle Channel et les affaires de même. Okay? Ça n'a pas rapport. Il a toujours été dans le but d'amener son message, puis les miracles, c'était pour appuyer le message. Okay? Et pour nous, ça signifie que, faut voir, là, il y avait de la compassion et de la miséricorde là-dedans. Okay? Il allait, il guérissait, puis regardez toutes les conditions ici, là. Les malades, ça va pas bien quand t'es malade. Quand t'es mort, ça va encore pire, OK? Mais c'est l'idée, puis c'est là aussi d'identifier, puis les gens sont dans le deuil, ont perdu quelqu'un, OK? La possession démoniaque, la lèpre, c'est toutes des conditions misérables. Ben c'est l'idée, justement, que c'est une démonstration de compassion et de miséricorde qu'elle est main dans la main avec la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire, on se soucie de vous, de vos conditions spirituelles, puis aussi de votre condition physique, c'est pour ça qu'on opère ces miracles-là, puis aussi, on se soucie de votre condition spirituelle. Okay? C'est là que je peux avoir un parallèle avec notre situation à nous. Ayant compris l'aspect très spécifique des circonstances ici, qu'il y avait des miracles de même, mais où on peut l'appliquer pour nous, je pense que c'est un parallèle qui se tient. Donc ici, l'idée... Au-delà de l'authentification, de dire que c'était bien les messagers, les envoyés du Seigneur, qui avaient le message du Seigneur, ça aussi, ça authentifiait qu'ils se souciaient des gens, qui étaient authentiques, qui voulaient vraiment leur bien. OK? Parce qu'on y pense, c'est quoi le message de ces miracles, sinon que les disciples et Dieu étaient émus de compassion pour ces gens dans des conditions misérables? Ils les sortaient de leurs conditions misérables, n'est-ce pas? Ils ressentaient leur misère pour pouvoir leur en délivrer dans le monde physique, puis ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur amenaient le message pour le délivrer au niveau spirituel. C'est peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est un parallèle qui peut bien aller pour nous autres, pour comprendre ensuite comment nous, ça peut s'appliquer à nous autres. L'idée, la motivation, ce qui les poussait à les sortir, les délivrer de leurs conditions misérables, dont le physique était simplement le moyen d'arriver vers le spirituel. Et Jésus faisait toujours ça. Il passait toujours du physique avec la femme samaritaine, hein? L'eau du puits, puis ça, il arrivait toujours vers le spirituel. Donc, ça suit ce pattern-là. Et je pense qu'on doit aussi apprendre de ça. Et là, je termine avec ça ce soir, puis j'ai certaines mises en garde parce qu'il y a des dangers qu'on peut tomber là-dedans, mais... Je pense qu'il y a un parallèle important pour nous en ce moment, en 2020. OK, d'abord, on n'est pas juste... Je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter encore. On n'est pas juste appelé à partager le message de l'Évangile pour que nos auditeurs répondent à un plan. On veut que les gens répondent à une personne. Le message de l'Évangile, je l'ai dit, hein, c'est le roi. C'est pas juste... Puis malheureusement... En tout cas, dans nos églises, je ne sais pas pour toute la chrétienté, mais souvent, on a réduit l'Évangile comme la réponse à un plan. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Non, puis là, ça donne une gamique. Puis là, les gens ont mis leur confiance dans ce qu'ils ont fait, dans une prière qu'ils ont faite, à répondre à un plan, au lieu d'avoir répondu à une personne. On n'a pas mis la personne du message de l'avant, on a juste mis le message de l'avant sans la personne, ou tu sais, sans mettre, OK? Et ça, c'est un piège. OK? Et c'est bien important que nos vies, nos attitudes, notre approche, nos relations reflètent cette personne. L'idée, c'est que si on prêche une personne, on représente cette personne. C'est ça l'idée d'identifier, OK? Tu sais, quand Jésus a dit à ceux-ci, tous vont connaître que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est la marque d'authentification. Oh, ça, c'est des disciples de Jésus-Christ. Je parlais ce matin de chrétiens qui, dans des temps de pandémie, étaient prêts à exposer leur vie pour sauver d'autres. Ça, c'est de ce dont je parle. Voyez-vous, leur amour, leur compassion, authentifier le message. Pensez-vous que les gens, après, étaient plus prêts à écouter ce qu'ils avaient à dire? Moi, je pense que oui. OK? Donc, ça allait main dans la main. L'amour qu'il y avait pour les gens, le souci qu'il y avait pour les gens, ça fortifiait le fait qui avaient un message à leurs amis qui pouvait changer la situation de leur âme. Parce qu'on comprend le fait qu'ils s'occupaient des malades, même en temps de pandémie, ça ne sauvait pas leur âme. Mais je pense qu'ils étaient pas mal disposés à écouter après. Quelqu'un qui est prêt à mourir alors que ma famille même m'a abandonné, eux, ils viennent, ils sont prêts à mourir. Wow, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Comprenez-vous? Quelqu'un le dit de cette façon-ci. Les gens se soucient peu de ce que tu as à leur dire tant qu'ils ne sont pas convaincus que tu te soucies d'eux. Je répète, les gens se soucient peu de ce que tu peux avoir à leur dire, tant qu'ils ne sont pas convaincus que tu te soucies d'eux. Et je pense que c'est ça ici l'idée de la méthode, OK? C'est-à-dire, le message est réglé, on l'a dit, mais de comment on l'amène? On l'amène comme étant des représentants de Christ, comme étant ceux qui sont prêts à mourir pour les autres, pour le bien des autres. C'est ça l'attitude de Christ, n'est-ce pas? C'est tellement précieux et grand notre message qu'on est prêt à tout pour ça. Regardez, on est dans Matthieu, on va aller voir, je vais renchérir ce que je dis là, on prend un peu d'avance avec notre texte, mais c'est pas grave. Venez avec moi au chapitre 11, versets 1 à 6. Et je termine avec ça ce soir. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, donc, pour ça, je vous dis, on va passer une couple de messages parce que la mission, c'est toute la fin du chapitre 10. Et à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Savez-vous, Jésus ici il réfère à l'accomplissement messianique d'Ésaïe 35, versets 5 et 6. Donc Jésus ramène Jean dans les Écritures, puis il dit, voici le Messie, c'est ce qu'il devait faire, c'est ce que je fais. Fait que là, il a authentifié. Et c'est significatif parce que Jésus-Christ lui-même était authentifié, reconnu prophétiquement pour ses actes de compassion, de miséricorde envers ceux qui étaient dans la misère. OK? Puis le disciple n'est pas plus grand que son maître. On va voir ça au chapitre 24 de notre chapitre, au verset 24 de notre chapitre. Et c'est ça l'idée. Jésus a été reconnu. Bon, tu sais, puis on sait que les miracles, comme je dis, c'était des dons de signes, ça l'authentifiait comme étant bien le Messie, mais qu'est-ce qu'était le Messie dans le monde? Si ce n'est pas celui que Dieu a tant aimé, que Dieu a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas là l'amour, la démonstration de Dieu, de sa miséricorde? Et donc, pour nous, notre méthode, c'est pas juste de prêcher comme un vendeur de souliers un message pour que les gens répondent à ça. On est des représentants de celui qui est mort pour les péchés du monde. On est les représentants de celui qui est le roi de ce royaume éternel qui vraiment est le seul qui a de l'importance. Et donc, on doit être authentique, non seulement au message, mais par rapport à celui qui nous a donné le message. Donc, plus que jamais, on vit dans des temps où, mes amis, les gens vivent dans de la grande misère. Parce que, on vit dans une société où les gens peuvent, pendant longtemps, être capables d'étouffer ça, mettre ça de côté, étouffer ça dans le travail, les drogues, pour ça. Puis j'ai tellement aimé ce qui était écrit ici, société des alcools, le divertissement, OK? Mais ça commence à avoir plus de misère à tenir la route, cette affaire-là, là, avec les confinements. Fait que c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui sauve le malheureux dans sa misère, puis il l'avertit par la souffrance. Et nous, on est en mission. Dieu nous a laissé ici pour qu'on aille voir ces gens, puis on priait ça tantôt, Dieu, amène-nous vers ces gens. Puis qu'on puisse leur proclamer ce message avec la compassion de Christ, puis qu'on puisse les atteindre comme ça, avec l'Évangile. Prions donc que Dieu nous conduise vers ceux qui est en train de faire ce travail-là. N'est-ce pas une bonne façon de finir ce soir? On a le mandat, on a le message, on a la méthode. Maintenant que Dieu nous dirige vers ceux en qui il est en train de travailler. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Avec cette grande mission, et Seigneur, tu nous as donné des instructions, mais c'est bien au-delà. Seigneur, tu nous as révélé ton cœur pour ce monde perdu. Que tu aimes, que tu es venu pour racheter. Et on sait, beaucoup te rejettent. Mais Seigneur, tu es à l'œuvre. Déjà, toute cette affaire-là de virus, on en parle de plus en plus. Ensemble, quand on se réunit, c'est dans ta bonté, tu nous délivres de nous-mêmes, mais tu veux aussi délivrer ce monde des pièges du matérialisme, de l'indifférence, de l'apathie. Et Seigneur, tu nous as envoyés en mission dans ce monde avec un mandat non négociable, un message clair, simple et une méthode qui n'est pas celle des hommes, mais celle de Christ qui a donné sa vie, qui est mort afin que les autres vivent et que nous aussi on puisse suivre cette même méthode. Ne pas chercher nos ambitions, ce que nous on veut, mais de se rendre serviteur de tous pour toi, pour ton royaume. Et le salut des âmes. Seigneur, dirige ce temps de prière en réponse à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et si vous voulez le faire...